Et si je t'emmenais rencontrer une Normande qui n'a pas froid aux yeux? Et pour cause, elle a parcouru la Laponie pendant 3 jours à pied en mars dernier avec une amie, Jessica, et cela pour une cause qui réchauffe le cœur. Viens, je te propose de rencontrer Agathe Dupont pour un portrait qui ne devrait pas te laisser de glace. Aussi, si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça pourrait permettre à d'autres personnes de le connaître également et je t'en serai infiniment reconnaissant. Porte-toi bien et bonne écoute.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Normand. Je me trouve avec Agathe Dupont. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Alors, je ne sais pas si tu le sais, alors je ne t'ai pas prévenu avant, je ne t'ai pas briefé, mais on va le faire. La première question que je pose toujours à mes invités, et ça a un sens particulier aujourd'hui, c'est « Where is Brian ?» Où est-ce que nous sommes ?
Nous sommes aujourd'hui au centre Henri Becquerel, plus particulièrement dans le service où je travaille, c'est-à-dire le service de chirurgie ambulatoire, puisque donc je m'appelle Agathe et je suis cadre de santé.
Et... explique-nous pourquoi, ou explique à nos auditeurs, pourquoi cet endroit est plus particulièrement important pour toi, sachant qu'on se trouve dans ton bureau.
Alors, pourquoi cet endroit est important pour moi? Alors, il est tout simplement déjà parce que donc je suis à la base infirmière. J'ai commencé ma carrière au centre Henri Becquerel et après 12 ans, j'y suis toujours parce que je suis très attachée à cette structure. Alors, j'ai évolué en tant que cadre de santé aujourd'hui. Mais cette structure, pour moi, elle est importante parce que j'y retrouve tout ce qui est autour de mes valeurs, qu'elles soient humaines et soignantes. Après, moi, je le dis aussi, je me suis retrouvée à accompagner deux de mes proches dans cette structure. Et donc, ça rajoute une connotation personnelle à cette vie professionnelle au centre de cette structure.
Je voulais y revenir plus tard, mais puisqu'on le fait, puisque tu l'abordes maintenant, je crois que c'est ce que tu avais posté sur Instagram. Ta maman a été accueillie dans cette structure, c'est ça?
Alors, ma maman l'est toujours.
D'accord.
Voilà, elle est atteinte d'un cancer du sein triple négatif.
D'accord.
Et mon conjoint l'a été, puisqu'il a été touché par un cancer des testicules. Donc, je pense que c'est important d'en parler parce que je fais partie des personnes qui partent du principe qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Il faut qu'on puisse parler de ces cancers que des fois pour lesquels on n'ose pas parler. Au niveau du cancer du sein, il y a certes plusieurs campagnes sur le plan national, campagnes publiques qui font qu'on en parle, mais il faut qu'on parle aussi de tous les autres cancers. Et l'idée est aussi de pouvoir se dire que il y a des structures comme les centres de lutte contre le cancer qui permettent d'accompagner de différentes manières, c'est-à-dire la plus globale possible, l'ensemble des personnes qui sont touchées par cette maladie.
Et justement, question intéressante, pourquoi tu estimes aujourd'hui, à juste titre très probablement, qu'il y a des tabous sur la forme de certains cancers comme le cancer des testicules ou le cancer du sein?
Je pense que déjà, la maladie n'est pas toujours évidente. En fonction de la vie de chacun, du vécu personnel, on va avoir des personnes qui vont être plus ou moins à l'aise d'en parler ouvertement, que ce soit avec des proches ou que ce soit avec d'autres personnes. Après, il y a aussi des organes qui peuvent être un peu plus tabous que certains. Donc, ça peut aussi expliquer le fait que certains cancers soient plus tabous que d'autres. Je pense aussi que il faut que sur le plan politique, dans la démarche de tout ce qui est santé, qu'on ose parler de différents cancers. Voilà, on fait beaucoup de mois, le octobre rose, le septembre en or, et
oui.
Donc l'idée c'est que petit à petit,
ou le mois de sensibilisation à l'autisme en particulier, c'est des choses en fait qui résonnent totalement, oui. Où en fait je me permets d'en parler parce que oui. J'ai rédigé un papier là-dessus il y a peu, moi les auditeurs le savent, je suis atteint de troubles du spectre autistique. Et en fait, moi, ce que je demande, c'est pas que les gens se parent forcément de bleu tel ou tel jour, ou pensent à l'autisme uniquement ce jour-là, ou dire ce que j'ai pu entendre environ une trentaine de fois en 34 ans, c'est-à-dire « Ah, aujourd'hui, c'est ton jour.
Ouais. »
Voilà. Aujourd'hui, on pense aux gens comme toi, aux gens comme moi.
Ouais.
Et en fait, je pense que il y a beaucoup d'essayer, c'est quand la question de tabou, mais il y a aussi la question de raccourci. C'est-à-dire que comme il n'y a pas une sorte de cancer, il n'y a pas une sorte d'autisme, mais aussi bien même dans le cancer que dans, parce que j'allais faire un parallèle, c'était ma question. Est-ce que, justement, on peut faire des parallèles avec ce qu'on peut entendre, surtout dernièrement, avec la santé mentale et autour les tabous qui commencent à se lever sur la dépression aussi, notamment?
Alors, moi, je pense que tout ce qui réunit ces sujets, c'est que l'opinion publique, plus elle sera informée de ce qui se fait, de ce qu'est le vécu des personnes qui sont touchées par telle ou telle maladie ou par tel ou tel handicap. En fait, peu importe. Je pense qu'il faut qu'on arrive à en parler de la manière la plus aisée possible. Et que ça permette aussi de lever ces fameuses handicaps, comme tu disais, les gens comme toi. Mmh. Bah, il n'y a pas de gens comme toi. Au final, on s'aperçoit que plus on va en parler, plus on va côtoyer des personnes qui vont se retrouver dans certaines situations, et on sensibilisera l'ensemble de la société. On va refaire. Ça risque de partir dans tous les sens, mais hier soir, je regardais une émission qui montrait des comportements d'hommes dans les années 80-90, qu'elles n'hésitaient pas à interpeller des femmes qui étaient sur scène lors d'une remise de prix avec des propos qui étaient totalement obscènes. Et ben aujourd'hui, en 2025, on n'en est plus là. Et aujourd'hui, ça choque qu'on puisse parler comme ça. Et ben, ça veut dire que la société a évolué, ça veut dire que des femmes ont réussi à parler de certaines choses, des sujets qui étaient tabous. C'est pour ça qu'on en revient à ces fameux sujets. Et je pense que le fait de rencontrer des personnes qui, elles, vont en parler de manière plus aisée, ça permettra, du coup, à toutes ces personnes qui s'y intéressent d'en découvrir un peu plus.
Après, ce qui est aussi malheureux, mais il faut en parler, c'est que justement, en particulier, les premières personnes qui brisent un tabou, en général, le payent assez cher. Et il faut rendre hommage à toutes ces personnes dans tous les milieux et tous les domaines qui sont les premières ou les premiers à briser un tabou. Parce qu'en général, on ne vit pas un moment très agréable, en fait.
C'est jamais simple parce qu'on fait bouger les lignes.
C'est ça.
Voilà. Et donc, on sort finalement d'un modèle où on sort finalement d'une majorité et on ose finalement parler de choses qui sont pas toujours.
En oncologie, mais en fait, ce que je voudrais aborder, c'est aussi de savoir justement que comment est-ce qu'on peut être amené à briser un tabou pour une raison simple, c'est qu'en général, quand une personne est diagnostiquée d'un cancer, c'est moi-même, parce que dans ma famille, voilà, c'était le cas, quand on annonce un cancer à quelqu'un, c'est la mort, on a l'impression que la mort arrive en fait, que la faucheuse vient à nos portes. Et comment on essaye de lever certains tabous autour du cancer? On dit que finalement, il y a quand même de l'espoir à avoir. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Oui, il y a de l'espoir à avoir. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est accompagner chaque personne à son rythme. L'idée, c'est que face à la maladie, c'est une histoire personnelle qui s'écrit. Chaque personne qui est touchée par un cancer, donc effectivement, avec cette peur de la mort qui arrive, ne réagira pas de la même manière, parce que pas le même vécu, parce que pas la même manière d'appréhender cette notion-là. Et donc, il faut être en capacité d'accompagner chaque personne à son rythme, de répondre à ses questions, de lui proposer divers supports ou de l'orienter vers divers professionnels qui lui permettront, justement, d'avancer avec cette question-là. Et donc, je pense que c'est surtout ça. C'est un accompagnement personnalisé.
Mais justement, aujourd'hui, est-ce que l'hôpital a les moyens de fournir cet accompagnement personnalisé qui est nécessaire?
Est-ce qu'il a les moyens?
Ça, c'est une grande question. Et je me permets de t'interrompre parce qu'en fait, je parle sur deux volets. Il y a le volet financier, mais il y a aussi le volet politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on met politiquement les moyens? Est-ce qu'il y a un engagement en termes de société, de cohésion sociale pour le permettre?
Il y a des initiatives qui sont lancées. Après, est-ce que on considère que les moyens ils sont mis pour que ça puisse avancer à la hauteur de nos attentes? Ça, c'est une grande question. On sait très bien aussi que on a toujours la sensation que ça n'avance pas à la vitesse à laquelle on le souhaiterait. Je fais pas partie moi des personnes qui vont avoir tendance à critiquer en disant que ça va pas assez vite. Je sais qu'il y a plein de sujets sur lesquels on se dit qu'on ne devrait pas aujourd'hui en être dans ces situations-là. Néanmoins, tant qu'il y a une dynamique qui permet qu'on continue d'avancer, moi je fais partie de ces personnes qui vont surtout se focaliser sur ça pour qu'on continue de ne rien lâcher.
Toujours positive. Ça m'offre une transition.
D'accord.
Puisqu'on va parler de l'Unimums.
D'accord.
Du coup. Alors, ce qui frappe, c'est l'Unimums. Pourquoi? En fait, pourquoi ce nom-là, c'était, enfin, c'est vos enfants respectifs avec Jessica qui ont contribué, c'est ça?
Oui, il se trouve que quand on s'est inscrite pour ce raid solidaire, il fallait forcément qu'on trouve un nom d'équipe. Et on avait nos enfants qui étaient à côté de nous. Et à l'époque, nos enfants étaient en train de lire un conte qui s'appelait Les Lumineuses. Et donc, Les Lumineuses, c'est l'histoire de femmes qui viennent en aide à d'autres personnes, voire à même des éléments. À un moment donné, il y a une histoire avec une montagne, enfin, voilà. Et l'idée, c'est que, en fait, à chaque fois, il y a une morale sur le fait de venir en aide dans un contexte particulier. Et on aimait bien ce côté, cette histoire, ce conte qui fait appel aux femmes, au fait qu'elles apportent quelque chose. Mettre en lumière aussi, pour nous, c'était important, puisque du coup, on soutenait une cause. Et donc, on s'est dit, Les Lumineuses, c'était quand même un joli nom. Mais on voulait aussi, du coup, comme ce sont nos enfants qui ont trouvé le nom, de les mettre effectivement avec nous. Et donc, on a transformé le Lumineuse par Lumimums. Et voilà, et l'aventure était partie avec ça.
Alors, si tu veux bien, comme je te l'avais dit en préambule, on va un peu tirer le fil de la genèse, en fait, de cette participation-là au résultat final. Vous avez terminé 11e, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et donc, en fait, à partir de quand, déjà, ça fait combien de temps que vous vous connaissez avec avec Jessica?
Ça fait plusieurs années. En fait, Jessica est une amie d'enfance de mon conjoint.
Okay.
Et moi, du coup, je suis avec mon conjoint depuis 12 ans. Donc, on se connaît depuis ce moment. Ouais. Et c'est Jessica, en fait, qui m'a parlé de ce projet. Et Jessica travaille aussi dans un centre de lutte contre le cancer. Okay. Et elle avait rencontré une jeune femme qui avait participé à ce raid, qui avait eu plusieurs cancers, et elle avait échangé avec cette personne qui avait justement contribué pour apporter avait mis en avant tout ce qui pouvait être fait dans le centre dans lequel Jessica travaille. Donc c'est à cette occasion qu'elles se sont rencontrées. Et Jessica m'avait toujours dit qu'elle souhaiterait faire on va dire une course ou un raid sportif. Et donc c'est elle qui m'a proposé ça en disant, voilà, est-ce que ça te dirait de faire ce raid? Alors moi je lui ai dit oui pour un raid, mais par contre pas dans des températures où...
J'allais y venir. C'est-à-dire que, en fait, je me suis dit, en général, moi, j'ai des potes qui courent, et en général, par contre, si je leur demande d'aller courir sous moins de 30 degrés, ils vont pas être ultra partants, quoi. Donc, pourquoi spécifiquement, en fait, ce raid-là, ce Laponitrophie, quoi?
Alors, il y a plein de choses qui ont gravité autour de ce choix du Laponitrophie. La première chose, c'est que, effectivement, on voulait se lancer dans un raid, quelque chose de sportif, parce que on est toutes les deux sportives et parce qu'on avait envie d'avoir cette notion de partage, de solidarité dans un effort sportif. Il y avait aussi le côté extrême. Ça revient avec la notion de dépassement de soi, d'apprendre à se connaître soi-même. Mmh. Donc, quand elle m'a proposé différentes destinations, moi, je lui ai dit, température chaude, c'est pas pour moi. Je te lève pas très bien les températures un peu élevées. Je dis pas que je savais que je te lèverais bien au moins 30, mais c'était quelque chose pour lequel je me sentais plus à l'aise. Après, la destination aussi, la Laponie est un pays qui nous, enfin, en tout cas, une zone qui nous faisait rêver. Donc voilà. Et c'est rajouté aussi le fait qu'on pouvait, du coup, participer à cette course en soutenant une cause. Et là, je me suis dit, bon, bah, ok, tout est réuni, parce que ça va nous permettre aussi, pendant qu'on se prépare, de aussi communiquer sur la cause qu'on avait envie de soutenir. Et donc, pour moi, tous les critères étaient réunis pour se lancer.
Mais justement, vous n'auriez pas pu toutes les deux, en fait, imaginer participer à une course s'il n'y avait pas un aspect solidaire derrière, où il fallait...
Comment dire, on aurait pu le faire.
Ouais.
Mais là, il y avait quelque chose avec une dimension beaucoup plus importante et qui nous correspondait plus parce que il y a aussi, comment dire, il y a l'engagement personnel quand on se lance sur un projet comme celui-ci. Alors, en binôme, puisque on le faisait ensemble. Mais là, il y avait aussi ce côté de se dire, on le fait pas que pour nous. Et donc, ça rajoute aussi le fait que, bah, il y a des moments quand on s'entraîne, voilà, on a sa journée dans les pattes, on commence notre deuxième journée parce qu'il faut s'occuper des enfants, et puis, il y a des fois, du coup, on n'a pas envie d'aller courir parce qu'on est franchement fatigué. Mais à un moment donné, on se dit, bah, ouais, mais si tu le fais pas pour toi, tu le fais.
C'est le dépassement. Et vient ensuite, justement, parce que tu as commencé à l'aborder, une partie qui n'est pas votre métier de base, si je ne m'abuse, c'est la communication, en fait, autour de tout ce projet. Il faut chercher des partenaires, vous démarchez Décathlon, donc du coup, chez Décathlon, on est séduit par votre démarche. Mais je veux dire, quand c'est quelque chose où c'est pas son métier, en fait, comment on arrive à se dire, on part de rien, on arrive à s'entourer, on cherche de premières relations, comment on fait?
On sort de sa zone de confort.
Ouais.
Voilà. Et c'est pas facile. Mais au final, on en sort grandi. Parce que moi, je me souviens les premières fois où il a fallu contacter des personnes où on les sollicitait pour du sponsoring. Il a fallu du coup parler de notre projet. Du coup, il a fallu parler de nous, ce qui est pas forcément facile, parler de soi. Et il a fallu parler du coup de ce pourquoi on avait besoin de les contacter. Et c'est ce qui fait aussi la magie de ces aventures, c'est que il y a des fois où ça ne va pas fonctionner. Il
ouais.
y a des fois où ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, là on se retrouve à vivre des aventures extraordinaires. Tu parlais de Décathlon tout à l'heure. Grâce à Décathlon, on a vécu une aventure extraordinaire. Et ça a rendu cette aventure du Laponie Trophy encore plus magique.
Alors, moi, j'aime bien, par exemple, j'aime bien le concret, la chose. Mmh. C'est-à-dire, je sais pas si c'est toi ou Jessica. Vous appelez Décathlon, vous dites, bon, écoutez, j'aimerais bien faire un raid sportif pour récolter des dons contre le cancer. Ça se passe comment? Ça se passe comme ça? Ou...
Alors, ça se passe un petit peu différemment parce que, donc, dans cette aventure, on a été mis en relation avec Solène, qui est devenue notre attachée de presse. Exactement.
Et qu'on embrasse bien fort
parce que, sans elle et sans d'autres personnes qui nous ont permis de se mettre en relation avec Solène, notre aventure n'aurait jamais été la même. Donc Solène, en fait, nous a rencontrés, elle nous a permis du coup de faire des enregistrements auprès de radio.
Ouais.
Donc là, c'était notamment Énergie. Et donc c'est Jessica qui, donc moi aussi j'ai été interviewée sur Énergie, et moi c'était du coup sur Rouen, et Jessica c'était sur Lille. Et donc un beau matin, l'interview de Jessica passe sur la radio Énergie, et quelqu'un qui était dans sa voiture a entendu l'interview de Jessica, l'a contacté, lui a dit, voilà, moi je connais quelqu'un qui travaille chez Decathlon, dans toute la partie qui est autour de la recherche et du développement de produits.
Mmh.
Je sais qu'ils ont des chambres froides. Il y a peut-être possibilité de vous proposer des entraînements dans cette chambre froide. Écoutez, je vous mets en relation avec la personne que je connais.
C'est un bel exemple de synergie, vachement positive.
Exactement. Et c'est ça qui a fait quand on est arrivé à s'entraîner avec Decathlon et à rencontrer des personnes incroyables.
Et donc, à partir de là, donc, commence un entraînement. Tu viens de me dire qu'en fait, tu étais plus à l'aise avec le froid que le chaud, mais alors vous êtes finalement entraîné dans cette chambre froide.
Oui. Donc, voilà. Tout à fait.
Et alors, comment ça s'est passé? La première fois, c'est comment?
Ce qui est génial, c'est qu'on a été accompagné par toute une équipe, et notamment deux femmes ingénieures qui travaillent dans tout ce qui est développement de produits pour les femmes et développement de produits dans des conditions extrêmes, notamment le grand froid.
Sure.
Donc, je salue Rokatou et Florence, et ainsi toute l'équipe qui nous a suivis, parce qu'ils étaient assez nombreux au final. Elles nous ont en fait permis de nous entraîner dans cette chambre froide avec tout un protocole. Donc on a fait deux premières journées à s'entraîner. Donc le premier jour, on a eu en fait des capteurs qui ont été fixés sur notre corps avec un premier type d'équipement. On a fait du coup 1h30 dans la chambre froide avec une alternance de moments où nous étions immobiles et des moments où nous étions en activité. Donc l'une était sur un tapis de marche et l'autre était sur un vélo elliptique. Et voilà, donc ça a duré pendant 1h30 avec régulièrement, donc on avait une caméra pour nous surveiller, il y avait des capteurs et on avait assez régulièrement un questionnaire. Donc on avait Florence qui venait nous voir bien couverte et qui nous posait des questions, nous demandant si on avait froid, sur quelle zone, comment on se sentait. Donc ça a été le premier jour. Le deuxième jour, du coup, on a eu un équipement qui était plus léger parce qu'il avait été remarqué le premier jour qu'on avait finalement eu chaud, ce qui n'est pas souhaitable quand on s'entraîne par des températures aussi froides.
Parce que la transpiration qui est...
Exactement. Et le fameux effet freezing qui fait qu'on transpire et du coup après on a froid. Et là, ça peut devenir dangereux. Donc, on a recommencé, même entraînement avec les capteurs. Et suite à ça, du coup, il y a eu toute une analyse des données qui ont été obtenues. Et là, ensuite, l'équipe de Decathlon nous a envoyé en fait l'équipement qui devait être adapté pour l'une et l'autre, puisque Jessica et moi, on n'avait pas la même manière de réagir au froid.
Ouais.
Moi, j'ai tendance à transpirer beaucoup plus vite et j'ai un syndrome de Raynaud qui fait qu'à un moment donné, moi, j'ai rapidement le sang qui ne circule plus dans les extrémités. Donc, tout ça a été pris en compte et c'est ce qui a fait que Jessica et moi, on a eu des équipements qui étaient personnalisés.
Et entre le temps où il y a eu le premier contact avec Solène et Décathlon et le Laponie Trophy, il se passe combien de temps en fait entre ces deux périodes-là ?
Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on a eu le premier échange vers le mois de novembre, je crois. Ouais. Pas dire de bêtises, et on est parti au Laponie Trophy au mois de mars, et on a toujours été en contact avec eux, le temps d'organiser ces jours d'entraînement. En fait, le Laponie Trophy devait initialement se faire au mois de janvier, pour des raisons climatiques, il a été reporté au mois de mars, ouais. Ce qui a permis à l'équipe de Décathlon de nous proposer de nous réunir une dernière fois pour un dernier entraînement avec l'équipement qu'on avait sélectionné, et s'assurer que tout était OK.
Comment on gère au quotidien un travail, cette préparation et une famille ?
C'est beaucoup d'organisation, ouais. Au final. Ça veut dire qu'il faut anticiper, ça veut dire qu'il faut s'organiser, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait des conjoints qui nous accompagnent pleinement dans ce projet-là. Et ouais. D'ailleurs, je les remercie chacun parce qu'ils ont été, ils nous ont véritablement aidés à pouvoir nous investir pleinement dans cette aventure. Donc voilà. Et en fait, c'est une véritable aventure humaine. Donc il faut.
C'est aussi un très bel exemple, je me permets de souligner, d'une forme de parité dans le groupe où chacun investit un effort conséquent pour le bien de l'autre et où tout ne va pas forcément dans un sens.
Tout à fait.
Celui qu'on attend, mais c'est franchement un bel exemple à ce,
exactement.
À ce titre-là. Vient donc la course en elle-même, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 12-16 mars, c'est ça? C'est 4 jours, c'est ça?
C'était 3 jours d'épreuve et ouais. On était 5 jours sur place.
Alors c'est découpé, pour que l'auditeur se perçoive bien, en fait. Ouais, c'est découpé comment, en fait? C'est-à-dire, on a un premier jour, telle étape, deuxième jour, telle étape.
Alors on est arrivé un mercredi. On est arrivé un mercredi début d'après-midi, voilà, où là on a découvert le lieu où on allait séjourner, on a rencontré les premiers binômes avec qui on échangeait. On était 27 binômes pour cette aventure de 2025. Donc on découvre le village où on va résider, on rencontre l'équipe organisatrice de ce raid, et le premier soir du coup on a le débrief sur l'épreuve qui va donc arriver, la première épreuve qui est un trail de 15 km ouais. Avec donc possibilité d'alterner entre, en fonction de l'état du terrain, soit on courait avec nos chaussures de trail, soit on devait mettre des raquettes. On nous fait découvrir un peu le parcours et dit exactement où est-ce qu'il va y avoir des ravitaux. Voilà, donc on fait cette première journée, ça se passe très bien, on est dans un décor qui est magique, une organisation qui est...
Et vous vous sentez bien, toutes les deux, je veux
dire. Tout à fait, on se sent bien et surtout, on se dit qu'on y est, que ça y est, l'aventure commence. Voilà, et donc l'après-midi, on avait le droit à des activités surprises. Et en fait, chaque soir, on débrief sur la journée qui vient de se passer et sur l'étape qui va arriver le lendemain. Donc, trail 15 km le premier jour, ski de fond et ice mud, qui est un parcours d'obstacles, deuxième jour et troisième jour. C'était une course d'orientation sur un parcours qui faisait 25 km à réaliser en 2h30 dans la neige, ce qui clairement était un sacré défi. Et donc,
sur les 3 jours, c'était quoi le plus difficile ?
La course d'orientation.
Ouais.
Ouais, véritablement, parce que déjà 25 km en 2h30, c'est compliqué. Avec la neige, ça vient rajouter quelque chose qui rend l'aventure plus difficile. Et ensuite, il faut être stratégique parce qu'il faut savoir si on récupère les 8 balises ou non. Donc, celle-ci était la plus difficile. Mais pour moi, la plus belle.
Ouais. Vous terminez 11e c'est une sur 27, hein, c'est une c'est très belle performance, donc dans le haut du
plutôt vers le haut
plutôt vers le haut du panier. Félicitations.
Merci.
Véritablement. Après alors est-ce que donc vous avez récolté des dons?
Alors on continue toujours de pouvoir
juste regarder. Tac tac. C'est super.
OK. C'est bon. On continue toujours de récolter des dons, on espère atteindre les 1 000 euros. Pour pouvoir ensuite les proposer aux 2 centres de lutte contre le cancer dans lesquels on travaille. L'idée, c'est de pouvoir investir dans du matériel pour la pratique d'une activité physique qui soit adaptée. Donc, à voir ensuite avec les professionnels à qui reviendront ces sommes, comment ça pourra être réinvesti.
Il y a un site, je le mettrai dans le
descriptif,
etc.
On a ouvert une cagnotte.
Ok. Et pour conclure cette émission, après des projets, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Bah, Déjà, donc, nous souhaiter, c'est qu'on continue comme ça de pouvoir prendre du plaisir dans des activités qui nous permettent de d'apprendre à nous connaître, à nous surpasser. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le partage, surtout que j'ai eu ce jour-là avec mon amie Jessica. Jessica, je sais qu'elle, il lui attend, prochainement arrive un beau défi puisqu'elle court son premier marathon, dans quelques jours. Puisque
le marathon de Paris.
Marathon de Paris. Donc là, elle s'entraîne, elle est en pleine, elle continue. Elle a des longues sorties et c'est pareil, donc c'est un très très beau projet qui arrive.
Je me permets juste au passage d'embrasser mon amie que j'ai reçue il y a un an et demi qui s'appelle Clémentine Asson et qui fait également le marathon de Paris dans quelques jours, et je lui souhaite également plein de belles choses. Et ben voilà, c'est terminé.
Merci.
Le mot de la fin revient toujours à l'invité, c'est la tradition ici. Est-ce que tu aimerais dire, aborder quelque chose que je n'ai pas dit?
Bah, moi, le message que je voudrais faire passer, parce que du coup, toute cette aventure que l'on a eue autour de ce raid, c'était de communiquer sur l'activité physique adaptée. Et moi, ce que je voudrais surtout, c'est que les gens aient ça en tête, que le fait de faire une activité physique, c'est pas faire forcément du sport avec ce côté difficile, mais c'est surtout de dire qu'il faut rester en mouvement. On dit toujours le mouvement, c'est la vie. Donc voilà. Et derrière tout ce qui est les activités physiques, c'est des moments de partage avec des personnes qui peuvent aimer faire les mêmes activités. C'est aussi prendre soin de soi. C'est aussi, malgré la maladie ou des handicaps, c'est être capable, c'est apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à se surpasser. Et voilà. Et donc, si je dois donner le mot de la fin, c'est que faut garder être en mouvement pour pouvoir profiter de chaque instant de la vie.
Merci, Agathe.
C'est à toi.
Et voilà, c'est tout pour cette fois, les Normands. On se retrouve très vite, comme d'habitude, pour un nouvel épisode. À la prochaine!